Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. Tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le même jour à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Gisèle Despouchaud, directrice adjointe de Montpellier Danse et de l'Agora, Cité internationale de la danse. Andy Dridi, hein, j'ai bien prononcé, l'accompagne. Il est danseur, chorégraphe et fait partie des artistes accueillis en résidence. Et donc, vous serez sur cette résidence pour votre création Black White, que nous pourrons découvrir en partie le 9 novembre dans le cadre des studios ouverts. C'est bien ça ?
C'est ça.
En seconde partie, Charles-Éric Petit, auteur, metteur en scène de la compagnie L'Individu, nous dira tout sur sa création Looking for Don Quichotte, à découvrir au théâtre Jean Villard du 3 au 5 novembre. Et en bonus, Thomas Cerisola, qui interprète Don Quichotte, nous dira deux extraits de la pièce. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour Annick.
Bonjour.
Bonjour chers auditeurs.
Il faut qu'on lève la voix toutes les deux, hein, parce qu'on n'est quand même que deux filles,
oui,
et trois garçons.
Oui. Okay. Posons-nous, Gisèle. Alors, Gisèle Despouchaud, pour cette saison Montpellier Danse, la programmation fait la part belle à de grosses têtes d'affiches, telles Mourad Merzouki, Boris Charmatz, le Jacobson Ballet, Angelin Brejloukage ou encore Pina Bausch, mais accorde aussi un soutien très fort aux artistes en résidence à l'Agora pour la création de leurs œuvres. Alors, Gisèle, il s'agit là d'une nouvelle politique de résidence, imaginée depuis combien de temps ?
Mais écoutez, c'est la première fois qu'on fait un appel à résidence, puisque jusqu'à présent, la Fondation BNP Paribas nous aide depuis plusieurs années sur la politique de résidence, mais on a décidé de la développer parce que on s'est rendu compte qu'avec ces histoires de Covid, de confinement, etc., les artistes avaient vraiment besoin de travailler, d'être dans les studios, d'être en studio et de continuer à créer. Et donc, on a imaginé cette politique très développée des résidences où on a mis un budget supplémentaire. On a fait un appel à projet. Donc, ça nous permet d'accueillir une trentaine d'artistes à cet appel à projet. D'ailleurs, on a reçu un peu plus d'une centaine de dossiers. Et sur les 100 dossiers, on en a choisi une trentaine qui viennent entre une semaine et trois semaines à l'Agora pour travailler. Donc, ils travaillent dans les studios, ils sont hébergés à l'Agora, ils ont un petit budget et donc ça leur permet d'avancer dans leur travail. Et c'est vrai qu'on fait chaque fois des sorties de résidence avec ces artistes et notamment Andy Dridi nous dira tout à l'heure que lui qui sera en résidence 15 jours au mois de novembre, donc il fera sa sortie de son studio ouvert le 9 novembre à 18h à l'Agora.
Oui, nous y serons, oui. Alors quelques chiffres clés, j'ai noté 313 jours de résidence sur 2021-2022,
oui.
Soit 113 jours de plus qu'en 2020, c'est énorme. 31 chorégraphes, vous l'avez dit, soit 11 de plus qu'en 2020, et 3 studios à disposition. Le fait qu'un studio se soit libéré, ça a joué
voilà,
aussi.
Oui, parce qu'avant, le conservatoire utilisait un de nos studios, donc on n'en avait que 2 à disposition. Et c'est vrai que maintenant que le conservatoire a ce magnifique bâtiment, ils n'ont plus besoin de notre studio, ce qui nous a ouvert, nous, des possibles. Mais c'est clair que cette politique de résidence est extrêmement importante, mais pour nous aussi, parce que ça nous fait découvrir des artistes. C'est vrai que dans la trentaine d'artistes qu'on a choisis, il y en a certains qui connaissent l'Agora par cœur, comme Amdi, hein, qui est un habitué et qui c'est un peu sa maison. Mais il y a plein d'artistes que nous ne connaissions pas, donc on les a choisis sur dossier. Et c'est vrai que ça nous permet de découvrir des travaux qu'on ne pouvait pas imaginer avec des artistes même régionaux. Hein, par exemple, on a accueilli Fouleux en début qui habite Cahors, donc qui fait partie de notre région Occitanie, dont nous ne connaissions même pas l'existence. Et c'est vrai que ce travail est absolument très intéressant. Donc,
mais du coup, comment avez-vous fait la sélection ?
Et
bien sûr, des critères particuliers quand
même. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé de choisir un tiers de compagnie régionale, un tiers de compagnie nationale et un tiers de compagnie internationale. Donc en décembre par exemple, nous aurons une artiste du Liban, une artiste qui vient du Maroc. Donc c'est vrai que Pour nous, c'était important de garder ces proportions-là parce que, d'abord, donner effectivement de l'espace de travail aux artistes régionaux, puisqu'il y en a énormément qui sont programmés dans la saison. Parce que là, Annick, vous avez nommé les grosses têtes d'affiche, mais c'est vrai qu'on a quand même 4 artistes régionaux qui sont programmés dans la saison.
Oui.
Donc, c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de leur donner la possibilité d'avancer dans leur création. Et puis que le public puisse les découvrir, quoi. Et nous, ça nous permet aussi de découvrir des gens qu'on ne connaît pas.
Tout à fait, puis c'est toujours excitant.
Complètement.
Je trouve. Mais alors, ces compagnies que vous avez sélectionnées, elles en sont à quel stade de leur travail
Ça dépend du studio qu'elles utilisent. Donc si elles sont au studio Fleuret, où il n'y a pas de technique possible, c'est un début de travail. Après, il y a la salle Béjart ou le studio Cunningham, où là, on peut faire un peu de technique. Et là, ce sont des travaux plus avancés, quand même. Et c'est vrai qu'on ne proposera jamais un studio ouvert à un artiste qui démarre un travail. Parce que oui. Ça, on sait que ça peut ne pas être positif pour l'artiste.
Oui, ni pour... Voilà, tout à fait. Ouais. Oui,
donc,
oui.
On préfère public, effectivement faire les studios ouverts au studio Cunningham ou dans la salle Béjart, où on présente des travaux qui sont beaucoup plus avancés.
D'accord. Et alors, tous sont amenés, à la suite de cette résidence, c'est amené à déboucher sur une création.
Ah ben, c'est amené à déboucher sur une création qui ne sera pas forcément présentée à Montpellier Danse. Bon, ça leur permet d'avancer dans ces créations. Et c'est vrai qu'au bout de toutes les résidences, parce qu'il n'y a pas que l'Agora, hein, donc en France, il y a énormément de lieux, ou même en Europe, qui accueillent les artistes en résidence.
Ça fait partie aussi du cahier des charges, de toute façon, des lieux...
Nous, n'importe comment à l'Agora, c'est clair qu'avec les hébergements, les 3 studios, c'est évident qu'en plus le soutien de la BNP sur cette opération spécifique de résidence, c'est vrai que pour nous, c'est un des éléments extrêmement importants de l'Agora. Parce que bon, en salle de spectacle, à l'Agora, on a le théâtre de l'Agora, mais qui est un théâtre ouvert, de plein air, donc on ne peut s'en servir que l'été. Donc on n'a pas vraiment de salle de spectacle à nous. La saison, on l'a fait en allant scoter les théâtres des autres.
Hein,
ça, donc c'est vrai que
l'Opéra Berlioz, l'Opéra Comédie,
la Vignette, Grammont, les 13 vents, voilà. Ouais. Mais donc c'est vrai que cette politique de résidence, c'est pour nous, c'est la vie de l'Agora en fait. Hein. C'est ce qui nous donne l'énergie, la vie pendant toute l'année, parce que il y a maintenant énormément d'artistes qui sont là, qui habitent là, donc qui mangent dans le cloître à midi et qui viennent nous voir et qu'on rencontre. Et c'est vrai que c'est la vie de l'Agora, quoi.
Oui, c'est important.
Ah, oui. C'est extrêmement important pour notre énergie à nous, c'est clair.
Oui.
Hein.
Oui. De la vie de la jeunesse, ça.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes gens, oui, c'est vrai.
Alors, parmi nos artistes du territoire, on va dire, enfin, je pense à Hamid El Kabous. Et alors, bon, elle n'est pas d'ici, mais elle est déjà venue, on la connaît, c'est Nasera Belhaza.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire, excusez-moi Annie, que je vous coupe la parole, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette politique de résidence, il y a effectivement les artistes qu'on choisit lors de l'appel à résidence, mais il y a aussi tous les artistes qui font des créations pour le festival suivant et qui viennent faire des résidences à l'Agora aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mix des deux.
D'accord. Voilà. Ah oui, donc Nasera, c'est plutôt dans ce cadre-là.
Nasera, elle sera en résidence à l'Agora, mais je peux pas, j'ai pas le droit de vous dévoiler la programmation du Festival 22.
Bon, il y a Marta Izquierdo aussi d'Onunoz, là, qui est super,
voilà.
Qui va passer...
Qui habite Toulouse, qui est en résidence ici, qu'on a programmé dans la saison l'année dernière.
Ouais.
La saison dernière.
Et je pense aussi à Stella
Mini et Constantinos Rizos.
Voilà,
les Paco.
Qu'on a vu aussi ici.
Alors c'est un peu quand même dit, hein. ils ont fait Exerce, ils ont tous fait, enfin il y a beaucoup de jeunes gens qui ont fait Exerce et qui s'installent à Montpellier après. Et ça je trouve que c'est génial parce qu'il y a eu une période où, mis du temps de Bagoué, un peu moins du temps de Mathilde, où les artistes qui travaillaient avec Bagoué ou avec Mathilde restaient à Montpellier après. Et ensuite ça s'est complètement arrêté. Les Exerce aussi, ils finissent leur formation. Exerce, c'est une formation donc en lien avec l'université Paul Valéry. C'est le seul master de danse qui existe en France. Mmh. Et donc, une fois que les étudiants avaient fini Exerce, ils repartaient chez eux, à Paris ou ailleurs. Et là, depuis quelques années, d'ailleurs, depuis la promotion d'Amdi et des Paco, hein, de Paola et de Constantinos, certains artistes ont décidé de rester à Montpellier et donc de développer leur travail à Montpellier. Et c'est vrai que nous, moi je vois toutes les sorties, toutes les fins de travaux, les travaux de fin d'études d'Exerce. Mmh. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert le travail d'Amdi, c'est là où j'ai découvert le travail d'Epaco. Et c'est là aussi, par exemple, Laura Kirschenbaum, qui vient de sortir d'une résidence à l'Agora, qui est programmé à la Vignette dans pas très longtemps. C'est là aussi, c'est ces travaux de fin d'études d'Exerce qui font qu'on découvre aussi de jeunes artistes et ces artistes qui ont envie de rester à Montpellier. Et donc après, on leur ouvre les portes de l'Agora et il y a le système des résidences et ça les aide à faire des créations. Ils sont programmés dans la saison. Donc c'est tout un circuit comme ça qui se met en place. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait des jeunes artistes qui restent à Montpellier maintenant.
Oui.
Parce que là, c'est vrai que... Bon, nous avions un certain nombre d'artistes qui étaient un petit peu, qui atteignaient la quarantaine, la cinquantaine. Donc là, ça rénove un petit peu les regards, ça rénove le travail. Et c'est vrai que le public est avide de découvrir des jeunes gens, quoi.
Et oui. Et justement, en parlant des publics, eh bien voilà, nous, spectateurs, vous nous donnez l'occasion de voir leur travail. Alors, sous forme donc, d'ateliers de danse, mais aussi des studios ouverts, des rencontres, il y a différentes...
Ils font énormément d'ateliers. Hein. Alors, nous, on donne... L'Agora est vraiment spécialisée dans les ateliers avec des chorégraphes. C'est-à-dire que les chorégraphes qui viennent en résidence, on leur propose de donner des ateliers. D'ailleurs, Amdi, tu vas en faire un certain nombre. On appelle ça les ateliers du lundi. Et tous les lundis, 18h à 20h, il y a un atelier avec un artiste qui est en résidence. Et ça aussi, c'est vraiment super, parce que les gens qui viennent suivre les ateliers, après, ils viennent voir les studios ouverts, ils viennent voir les spectacles. Donc, ça ouvre vraiment le public, quoi.
Oui, oui, oui. Et en plus, c'est en entrée libre, hein, sur réservation.
On est obligé sur réservation, oui. Puisque les jauges sont de plus très limitées, dirons-nous. Et donc, effectivement, c'est sur réservation. Ouais. Mais c'est toujours entrée libre.
En entrée libre. Alors, on va faire peut-être quelques mots avant de faire une petite pause musicale et puis on donnera la parole à Amdi. On passera un morceau de Folia de Mourad Merzouki qu'on peut voir là actuellement à l'Opéra Berlioz au Quorum. Gisèle, quelques mots sur les coprods.
Ah, je croyais que vous vouliez que je vous parle de l'accueil du public pour Folia.
Ben...
1800 spectateurs debout à hurler leur joie et leur bonheur. Comme chaque fois, c'est incroyable.
Ouais, ça,
c'est incroyable. Ce chorégraphe, il a un rapport au public qui est absolument exceptionnel.
Et en particulier avec les Montpelliérains. Hein.
Et il adore venir à Montpellier parce que bon, c'est vrai qu'il y a à Montpellier, il a un accueil, mais qu'il n'a pas ailleurs. Quoi. Ouais. C'est absolument incroyable.
On l'aime, mais c'est vrai. En plus, il est adorable. C'est une belle personne.
Il est absolument adorable.
Talentueux et belle personne.
Alors donc les coproductions. Donc les coproductions, mais effectivement, donc nous, en tant que Montpellier Danse, sur les spectacles du festival, on amène des montants de coproduction. Parce que vous savez que pour créer une pièce, il y a à la fois le budget de production, c'est-à-dire c'est tout le travail de préparation avec les résidences pour préparer la pièce, pour arriver à une pièce finie. Et donc, Montpellier Danse n'est jamais producteur entièrement, parce que les productions s'élèvent à 100 000, 200 000 euros, enfin ça dépend des projets. Mais nous participons à la production, c'est-à-dire nous amenons 10 000, 20 000 euros pour participer à la fabrication du spectacle. Et ensuite, donc, il y a la diffusion, et donc quand un de ces spectacles est programmé, donc on paye les coûts de diffusion du spectacle. Mais c'est vrai que la coproduction est un élément extrêmement important parce que c'est ce qui permet aux œuvres d'exister. Hein. Je suppose qu'en théâtre, c'est la même chose. Ils vont vous dire la même chose tout à l'heure. Mais sans les coproducteurs, la pièce ne peut pas exister, quoi. Parce que pendant une résidence, il y a des danseurs, il faut payer les salaires, il faut payer les voyages, il faut payer les défraiements. Et donc tout ça fait partie du budget de production.
Eh oui, les garçons font oui de la tête. Oui, 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 eh oui. Vous avez quelque chose à dire, Thomas? C'est bon. Alors, on écoute un petit extrait donc, de Folia de Mourad Merzouki et puis on donnera la parole à Amdi. Et oui, vous êtes sur Radio FM Plus pour votre émission Scénorama. Et donc, voilà, Hamdi Dridi, j'écorche votre nom, excusez-moi. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter les grandes lignes de votre parcours professionnel ?
Les grandes lignes commençaient de Tunis, en fait, où j'étudiais la danse. J'ai commencé par la danse hip-hop, d'abord. Et après, j'ai intégré une école de danse dirigée par une femme de caractère qui s'appelle Siheb El-Khodja. Ensuite, j'ai fait la transition entre Tunis et Lyon. Par curiosité, je voulais voir, en fait, au-delà de ce que je fais, en fait, comme danse, je voulais voir ailleurs comment ça se passe, hein, de franchir. Et j'ai intégré la formation de l'interprète à l'auteur chez Magui Marin, au CCN, au Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape, Lyon. En collaboration avec l'université Lumière Lyon 2. C'était une licence professionnelle, en fait, en danse et en théorie. Et ensuite, j'ai fait la transition pour aller au CNDC d'Angers, qui est le Centre National de Danse Contemporaine à Angers, pour étudier 2 ans des danses de post-moderne américaine, où j'ai appris tout le catalogue, on va dire. J'ai traversé tous les vocabulaires, en fait, depuis les années 1950, dans l'objectif de dire j'ai envie de devenir un beau danseur et revenir à mon pays et enseigner. Il m'est arrivé un événement qui est le départ de mon père, le décès de mon père, qui est venu comme un événement comme ça, et qui a changé toute ma vie, dans le sens où je voulais... Je cherchais pendant ce parcours en 2014 à comment lui rendre hommage, comment faire quelque chose pour lui. J'ai décidé de créer une pièce, un solo qui est dédié à lui, à son métier de peintre en bâtiment. Donc, d'un danseur qui voulait être quelqu'un de virtuose, a orienté toute ma danse vers le geste ouvrier, à son métier, qui m'a aidé à avoir un chemin, à clarifier les choses pour moi.
D'où aussi le nom de votre compagnie ?
Chantier Public, oui. Première source d'inspiration, c'est mon père. Et ensuite, j'ai continué avec cette recherche en allant de Angers, entre 2013 et 2015, à Montpellier, où je suis tombé amoureux de cette ville et du climat. C'est proche de Tunis, il y a la mer entre nous. Voilà, c'est ma deuxième ville, mon deuxième pays, on va dire. Et depuis 2015, en 2017, j'ai fait la formation Exerce au CCN de Montpellier, dirigée par Christian Rizzo, où aussi j'ai eu la bienveillance et l'accompagnement de loin avec Montpellier Danse, donc Gisèle qui est présente et Jean-Paul Montanari, qui ont suivi le travail jusqu'en 2017. Et après, j'ai fait la transition parce que je voulais m'installer à Montpellier après mon parcours d'études. Et voilà, avec le soutien et l'aide de Montpellier Danse et puis le CCN d'un côté et d'autres personnes autour de moi, je me suis installé et j'ai créé ma compagnie Chantier Public à Montpellier depuis 2018.
D'accord.
Voilà.
Et depuis 2018, combien de créations ?
Depuis 2018, c'est 3 créations. De ce solo, en fait, que j'ai créé à mon père, avec le soutien de Montpellier Danse, c'était le projet de fin d'études d'Exerce que j'ai commencé en solo pour transmettre à 2 autres danseurs tunisiens que j'ai fait venir de Tunis à Montpellier pour créer une pièce en hommage à l'artiste comorier de son œuvre. Donc de faire la transition de l'ouvrier vers quelque chose de plus du personnel à l'universel. Et on a été programmé pendant la saison Montpellier Danse en janvier 2019. Et c'est une pièce qui a pris le temps pour mûrir et faire la tournée au festival Roma Europa. On était en Palestine, on était en Italie, en Allemagne. Et la dernière fois, c'était au Théâtre Paris-Villette pour le festival Génération A. Après, j'ai voulu aller au-delà de ce sujet de l'ouvrier, en fait, et je voulais... questionner le rapport, en fait, à la foi et à la spiritualité pour retrouver, pour rendre hommage à ma mère qui est toujours avec moi, qui est aussi la meilleure chorégraphe et danseuse, source d'inspiration pour moi. d'où le fait où j'ai travaillé avec les musiques de Om Kalthoum, avec un dispositif sonore qui m'habille en fait avec des enceintes accrochées à mon costume encore. Et je l'ai fait tourner pendant 20 minutes pour chercher cette ivresse, cette extase un peu poétique. Et la pièce suivante qui est actuellement en fait, c'est Black White, c'est un duo où je continue cette recherche en fait de fatigue et de fatigue joyeuse, on va dire, avec un rapport au sol qui est le rapport à la marcher, à voyager entre, et j'imagine en fait partager une marche pour faire court. Je voulais continuer cet hommage à ma mère parce que depuis mon enfance, depuis ma naissance, elle a marché des kilomètres toute sa vie pour travailler. Et en portant des sacs de pain dur, elle collecte du pain dur, elle fait femme de ménage. Et moi, de mon côté, j'ai décidé de marcher avec elle à distance, mais avec une abstraction, d'une forme chorégraphique, de partager mon travail d'artiste avec le sien. Et de partager une marche à distance. Et de, comme elle collecte du pain dur, moi je collecte des flashbacks et des souvenirs d'elle et de mon père. Et des personnes qui nous inspirent pour créer une pièce.
D'accord.
Voilà.
Qui sera donc Black White.
Qui sera Black White.
Donc du coup, le choix de ce titre, quelques mots.
C'est noir-blanc, c'est le rapport entre les deux couleurs, la différence et les points communs entre les deux couleurs, qui pour moi signifient ici et ailleurs. Qui signifie aussi d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire un choix, le bon et le mauvais, le sérieux et le banal. De, comme en fait, nous, en tant qu'êtres humains, moi, je voulais vraiment aller en fait, dans ces couleurs-là, en partant d'un espace, de la lumière, en partant du rapport musique-danse et musique-univers sonore, qui est une chose très, très présente dans mon travail, en fait, de partir des enregistrements du corps, des chantiers, des personnes, pour créer de la musique. Oui, noir et blanc, c'est tout le contraste et toute la différence qui peut exister entre les deux, qui est pour moi à la fois différente et complémentaire.
Et pourquoi as-tu choisi un titre en anglais ? Excusez-moi d'intervenir.
Oui, un titre d'anglais parce que dans la formation Exerce, on était aussi... moi, je suis tunisien. Et je n'ai pas voulu, par exemple, nommer la pièce en arabe. J'ai nommé d'autres pièces comme le premier solo, Tumeur de terre. Et c'est une façon pour moi de ne pas parler une seule langue, en fait, d'être un peu universel, d'être un peu plus large. Voilà.
Hamdi, merci. On va écouter un petit extrait. Donc, je rappelle qu'on pourra voir... Black and White. Enfin, c'est une étape de votre travail, c'est pas complètement terminé.
C'est la résidence, c'est l'étape avant la première qui aura lieu le 13 novembre au Théâtre des Mazades à Toulouse pour le festival 9-9. Et c'est presque la fin en fait de la pièce.
Donc nous, le 9 novembre, ça sera quasiment.
Ça sera quasiment presque fini. Ouais, et puis voilà, on va dévoiler un peu l'intime de cette pièce.
D'accord. Donc ce sera à 18h au studio Cunningham. Donc entrée libre sur inscription via le site. Pensez à venir avec votre passe sanitaire. Plus d'infos sur montpellierdance.com et sur les réseaux sociaux. Et donc on écoute un petit morceau et on enchaîne directement avec les invités de notre seconde partie pour Looking for Quichotte. Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle. C'est tous les vendredis à 11h, avec rediffusion à 20h, et le samedi à 12h10, écoutable en podcast All in the World sur radiofmplus.org. Alors, Charles-Éric Petit, je suis ravie de vous recevoir, parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai le plaisir d'avoir aussi un auteur. Voilà, les metteurs en scène, j'en ai beaucoup, des comédiens, j'en ai beaucoup, mais les auteurs, c'est un peu plus rare, on va dire. Enfin, voilà. Alors, votre compagnie, L'Individu, existe depuis une quinzaine d'années.
C'est ça, ouais, 15-16 ans, ouais.
Et vous êtes basé où ?
Alors, la compagnie est toujours à Marseille. Moi, j'habite Montpellier depuis 6 ans maintenant. Et il est question qu'on vienne aussi, non pas délocaliser la compagnie, elle restera sur Marseille, mais qu'on fasse quelque chose aussi, qu'on crée une structure à Montpellier pour en faire une compagnie qui soit à la fois sur la région PACA et Occitanie.
Yes, voilà une bonne nouvelle. Alors, vous avez écrit et mis en scène une dizaine de pièces. Si je ne me trompe, votre texte « Looking for Quichotte » est une commande.
Exactement, c'est une commande d'écriture d'un metteur en scène qui s'appelle Vladimir Steyert et qui a créé la pièce, lui, en 2016.
D'accord. Alors, cette pièce, en 2017, a été sélectionnée par le comité de lecture de la Comédie française, donc mise en scène par ce metteur en scène.
Voilà, a été mise en scène aussi par quelques compagnies amateurs, parce que le texte a circulé aussi dans certains comités,
Pascal
certains
Fréry,
amateurs. Et alors, il y a aussi Pascal Fréry, qui est un de mes anciens élèves, qui l'a monté avec deux camarades à lui, ouais, il y a deux, trois ans.
La pièce est éditée, on peut la trouver ?
Alors la pièce n'est pas encore éditée, il est question qu'elle le soit. On est en discussion avec les éditions Domains.
D'accord, ah bah très bien.
Voilà,
on
reste local.
Ah oui, mais c'est parfait. Donc, et là, c'est vous l'auteur qui décidait donc d'y proposer votre propre point de vue.
C'est ça, le parti pris de mise en scène.
Oui, mais alors vous n'étiez pas satisfait des autres mises en scène ?
Si, je les ai trouvées super bien les autres mises en scène. Notamment la dernière de Pascal, parce qu'il revenait à quelque chose qu'on a pu éprouver nous aussi dans le travail, c'est-à-dire l'acteur et le texte, ça fonctionne. En soi, le texte a sa structure. Bon, après, j'ai pas beaucoup de mérite, hein, c'est que je suis bien aidé. Ce texte est inspiré d'un livre qui aide un petit peu à la dramaturgie, à l'imaginaire et au bon fonctionnement. Mais non, c'est tout ça. Enfin, c'est surtout en fait en réalité lié à le choix, en tout cas du parti pris. On va en parler.
Oui.
Du parti
pris. Mais le choix d'avoir voulu vous mettre en scène ce texte.
Ça faisait longtemps. Quand j'écrivais ce texte, en fait, je pensais à Thomas Cerisola qui est ici présent et Franck Gazal qui n'est pas présent mais qui est sur le plateau qui joue Sancho Panza. Je les avais dans l'oreille déjà en écrivant. Donc voilà, quand il s'est agi pour moi de monter cette pièce-là, parce que je ne l'avais jamais montée, c'est imposé et c'était aussi l'envie d'entendre ce texte dit par eux. Quoi.
Oui, d'accord. Oui. Parce que en tant qu'auteur, ça doit être frustrant parfois de laisser son texte, suivant dans la façon dont il est interprété.
Moi, j'adore ça, au contraire.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'adore ça.
Ah ouais.
Ah non, bah non. Au contraire, c'est pas frustrant. Non, pas du tout. Non. Moi, j'aime bien voir justement les autres
inconnus qui des fois font pas du tout ce qu'on avait pu imaginer.
Surpris. Bah ouais, j'espère ça être surpris. Au contraire. Non. Non, c'est que là, l'envie était aussi de... Et puis, eux me surprennent aussi, à chaque fois. D'une manière générale, moi, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec une bande, une troupe. On pourrait dire qu'on était une compagnie, plus une troupe de théâtre, en tout cas dans l'esprit. Et j'écrivais aussi pour eux. C'est-à-dire que j'ai aussi cette chose, souvent, j'ai écrit pour mes acteurs, avec cette contrainte-là.
D'accord.
Alors, entre-temps, j'ai eu des commandes d'écriture. Je me suis mis à écrire pour d'autres gens aussi, pas nécessairement avec les musiques des acteurs et des corps que je connais bien. En 10 ans, on commence à bien se connaître, à entendre les corps aussi.
D'accord. Oui, donc c'est... Bon, enfin, j'allais dire c'est plus facile pour vous. On en parlera après du côté comédien. Alors, j'ai noté une phrase là, je cite... « Je vois dans le personnage de Quichotte la mise en abîme de Cervantes... dans sa cellule, mon propre reflet parâtre de l'auteur enfermé dans sa psyché et qui souhaite s'échapper.
Ouais. »
C'est intéressant.
C'est vrai. Et il y a une phrase un peu dans la pièce aussi qui dit « Mon cerveau est une prison aux multiples cellules. » Et il y a cette chose-là qui m'a guidé, moi, dans la mise en scène. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est la première fois que je travaille avec un scénographe. Et là, je vais citer Daniel Fayet, qui est un scénographe local, qui travaille avec beaucoup aussi de gens dans la région. Et ça a été une aventure assez extraordinaire, ça, pour moi. C'était la première fois que je travaillais donc, avec un scénographe et avec qui on a pu penser, à partir du texte, l'espace. Et est apparu cet espace de prison, sachant que Cervantes a écrit Don Quichotte dans sa cellule.
C'est vrai, oui.
Et il y a son prologue à Cervantes, comme ça, où il raconte... Il dit, alors excusez-moi, pardon, enfin, un peu comme Shakespeare, un peu dans ses prologues, il dit, pardon, je suis désolé d'avoir écrit cette chose-là, je ne suis pas un très très grand auteur, j'avais pas... En général, les poètes, ils écrivent avec les muses qui les aident, les arbres et les oiseaux, alors moi je n'avais que le son des geôliers, etc. Alors pardon pour mon œuvre, excusez-moi, bon voilà. Et ça donne Don Quixote de la Mancha. Évidemment, il savait très bien qu'il était en train de sortir une très grande œuvre. Mais voilà, et en tout cas, cette idée d'emprisonnement mental, cette idée aussi, peut-être aussi aujourd'hui, d'être enfermé, de ce qu'on a vécu, cette chose de très solitaire, hein, de l'auteur. Sachant que l'auteur de théâtre, quand même, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois on est seul et en même temps, il y a toujours cet espoir que cette chose soit... de passer de l'intime vers l'extime, quoi. Que tout d'un coup... cette chose puisse exister. Et voilà pourquoi... voilà quoi. Ah tiens, il y a ce texte que j'ai pas de mémoire, mais que tu sais, Thomas, qu'on a coupé hein, dans le spectacle, mais que tu pourrais dire, ça. J'espérais qu'en me fermant, mes yeux eussent pu...
Alors, on va faire une petite pause musicale, ouais. Et puis du coup, vous réfléchissez. Thomas, si vous voulez bien, ouais, vous nous direz quelque chose au micro. Et c'est sur Radio FM+, évidemment. Alors, je propose, oui, peut-être un extrait de... un morceau de Captain...
Duffart.
Oui, hein? Yes. D'accord, Yann? Allez, on y va.
The following tone is a reference tone, recorded at our operating level.
Sunshine bright, girl and boy. The earth of tricks and candy sticks. Peppermint cat for my toy. I walked along happy and then came back. I followed the yellow brick road. Often found I saw you down. Altar bound, altar bound. Taught the gift of love. Yellow brick road, took my load. Sunshine girl, come to my boat.
Et voilà, ça c'était une musique qui était dans le spectacle, mais qui a été coupée. Et il y a un autre texte qui a été coupé, qui était aussi dans le spectacle, mais qui va bien avec ce qu'on se racontait et qui concerne un peu la question de l'auteur et la question de l'acteur. Thomas, peut-être tu peux nous le donner, comme ça, il existera quelque part.
J'espérais qu'en se fermant, mes yeux eussent pu enfermer mes pensées. Besoin de les consigner dans un livre, avant que les images n'aillent rejoindre la fosse commune des souvenirs. Le matin, lorsque l'on s'ébroue de ses rêves, c'est un peu de manne sacrée qui part avec les restes du songe. C'est pourquoi il m'est nécessaire de consigner ces nébuleuses pensées par écrit, comme on consigne les morts dans les cimetières. C'est pourquoi les acteurs endossent les noms des héros et deviennent, en les jouant, les vivants gardiens contre l'oubli.
Sorte de manifeste.
Ouais, très beau. Merci Thomas Cirisola.
Donc je suis Claude.
c'est drôle. Il y a Claude Chastanier qui est professeur à l'université. Il était aussi dans le spectacle. Il a été coupé aussi. Claude, si tu nous entends, pardon. Mais il y a des choix comme ça cruels.
Bah, parce que vous dépassiez au niveau du temps. Et c'était oui, trop long.
Et oui. Après, il y a des lois de plateau comme ça.
Tellement de choses à dire. Mais alors, donc là, voilà, il s'agit donc d'une réécriture théâtrale. Et là, vous avez choisi un contexte totalement contemporain.
Absolument.
Vous voulez nous situer un peu?
Ben, c'est-à-dire que, oui, donc Thomas, que vous venez d'entendre, non seulement il est comédien, mais il est aussi rocker. Il a fait le conservatoire d'art dramatique supérieur national de Paris.
De théâtre.
De théâtre.
Et de musique.
Non, là, c'est, la musique, c'est la rue.
C'est la rue.
C'est les copains, c'est l'adolescence.
Depuis que je connais Thomas, en fait, on s'est rencontrés, nous, sur un spectacle qui s'appelait Notre Dallas, parce que je cherchais un comédien musicien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Thomas est habité par le rock'n'roll. Et l'idée de, tout d'un coup, transposer ce Quichotte aujourd'hui, qui ne serait plus empreint des romans chevaleresques, mais d'une mythologie du rock'n'roll, correspondait à la fois... à l'archaïque monsieur Thomas Cerisola, ce vieux compagnon de route, qui lui-même...
j'ai vu qu'il y avait des EHPAD pas loin.
Oui, c'est ça.
Je vais faire une petite visite.
J'ai voulu faire croire qu'on l'amenait à l'EHPAD, en fait. mais voilà, la transposition, tout simplement, c'est que autant Quichotte de Cervantes, lui, est rempli par l'imaginaire chevalasque, qui est archaïque à l'époque de Cervantes. Et aujourd'hui, voilà, il porte en lui toute... Toute l'histoire du rock'n'roll et sa subversion et l'esprit.
L'esprit du rock, surtout, plus que l'histoire ou plus que... C'est vraiment l'esprit libertaire, l'esprit d'indépendance, l'esprit d'amitié et aussi de délire.
Oui. Alors le rock, on va dire, des années 60-80 à peu près.
Ouais, plutôt, hein, c'est l'âge d'or, on va dire, du rock. Ouais. Mais ça part des bluesmen... de Robert Johnson, des années 20-30 en Amérique, jusqu'à aujourd'hui, le dernier Don Quichotte, ça serait peut-être pour moi un Jeff Buckley ou un Kurt Cobain.
Oui. Alors voilà, c'est aussi cette pièce est aussi synonyme de subversion, enfin totalement, par ce côté rock, et donc avec un engagement politique et sociétal.
Il y a cette chose-là. En tout cas, c'est vrai qu'après, dans tout le travail qu'on a fait de recherche autour des figures des rockers, et puis même au plateau, c'est vrai qu'ils sont plutôt les figures contestataires qui, tout d'un coup, prenaient du sens aussi par rapport à notre histoire, quoi.
Et des figures qui ont disparu aujourd'hui, qui sont décédées. Et effectivement, Johnny Cash, Captain Beefheart... Lou Reed,
et aussi
Frank Zappa.
Et aussi quelques outsiders, Jonathan Richman,
tous
les gens un peu à côté, comme ça. Parce que c'est quand même le principe de Don Quichotte, quand même. Alors, on va pas divulgâcher la pièce, on va pas dire un peu les titres, mais il y a quand même aussi un art du perdant, quand même. Il y a du perdant magnifique, voilà, quelque chose qui résonne bien aussi avec quelque chose.
Cher à Leonard Cohen.
Oui, c'est pas le pauvre loser, quoi.
C'est le loser magnifique.
Et alors, parce que, voilà, Quichotte, c'est le chevalier rocker, garant de toutes les mémoires, et de toute l'histoire, et surtout de l'esprit du rock'n'roll, on peut résumer. Et alors, quelques mots sur son compère, Sancho, quand même.
Sancho Panza. C'est-à-dire que serait Quichotte sans Sancho ? On entendait tout à l'heure Black and White, effectivement, il y a un yin et un yang. Quichotte n'existe pas sans Sancho, n'existe pas sans Quichotte. Ce qui est génial, et ça c'est super, quand on s'est mis à répéter, c'est-à-dire qu'on a toute notre histoire qui se raconte, et à un moment donné, sur scène, quand on voit les deux là, comme ça, et les figures qui apparaissent, elle balaye même toutes les pensées qu'on peut avoir et tous les partis pris qu'on peut faire. C'est-à-dire que c'est la matrice originelle du duo comique de toute notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a Laurel Hardy, il y a Don Juan Sganarel, il y a vraiment il y a 200, 300 siècles de farces qui sont contenus à travers juste le grand maigre et le petit gros. Ces figures-là. Et cette puissance un peu magique, performative sur scène, elle est assez incroyable. Elle m'a même, moi, surprise. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand les choses apparaissent comme ça, elle prend une place qui est plus grande que nous.
D'accord. Voilà. Ah ouais. Et donc, ça va être drôle.
Ça va être drôle.
Extrêmement drôle.
C'est, moi, pour le définir comme ça, on en parlait l'autre jour, c'est de la tragicomédie. Voilà. C'est un genre hein, qui existe, c'est de la tragicomédie. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas que drôle, mais oui, ça passe par plusieurs codes et par plusieurs, délires, plusieurs espaces.
Voilà, sous forme de road trip.
Un road trip immobile, oui.
Un road trip immobile, oui. Ouais. Quelques mots, justement, enfin, vous avez commencé à aborder sur la scénographie.
Alors, l'idée étant que au théâtre, on a essayé de représenter Daniel, à orienter le travail vers l'espace mental de Quichotte. On est dans la tête de Don Quichotte. Je vais pas. On démarre dans quelque chose qui a à voir dans les inspirations avec la Factory de Warhol, et puis ensuite on va aller vers le Chelsea Hotel qui a servi qui nous a inspiré. Et puis dans les dernières scènes, après, Quichotte part dans les enfers numériques et il finit à Netflix, sur les studios de Netflix.
Ouais.
Et donc là, on est parti aussi sur la contrainte de représenter cette chose-là et d'accompagner le récit, quoi.
D'accord. Alors oui, je repense à. Bah, d'ailleurs, c'est justement une mise en scène là, une des mises en scène de cette pièce, ou qui est aussi pas mal basée sur le numérique là, concernant.
Voilà, Vladimir Seyert, il utilisait beaucoup la vidéo parce que ça fait partie de son vocabulaire de metteur en scène.
Et alors, du coup, on va écouter un petit morceau. Là, on va faire une petite pause musicale avec le Velvet Underground. Et puis après, Thomas voulait bien enchaîner sur un peu de texte.
Si vous voulez, je peux vous dire un poème de Nazim Hikmet.
Alors, on écoute d'abord The Velvet.
Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on a radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine music. You know her life was saved by rock.
Charles-Éric, tu veux bien faire son Chopin de ça?
Allez.
Pas de blanc en radio, donc vous êtes sur Radio FM plus tard, votre émission Scénorama.
Ah oui, à ce moment-là, oui.
Bon, là, c'est vraiment du direct et de l'impro. Hein. Alors, les garçons, est-ce que vous êtes mis d'accord?
On s'est mis d'accord. Oui, c'est le texte 2, oui, c'est ça.
Alors, qui démarre?
C'est Sancho qui dit « Vous êtes toujours considéré comme un fou, monsieur, mais en vérité, vous êtes un gentil. » Un vrai gentil. Tant de courage et si peu de moyens. Le vrai courage, c'est votre quête de vérité, monsieur. Votre quête de vérité à travers le sublime. Et même si le sublime est parfois dérisoire, tel un enchanteur, vous transformez le dérisoire en sublime.
Les hommes ont besoin de rêves, Sancho. C'est par le rêve que nous pouvons exister. Les romans, les séries, la presse... Les jeux vidéo, la radio, le théâtre, la musique, la religion, les récits. Tout cela n'est que prétexte à partager nos espaces. Quelques petites aventures avant la fin. Like a bird, on the wire. Like a drunk, in a midnight choir. I've tried, in my way, to be free. Like a fish. On a hook, like a knight from some old-fashioned book. I've saved all my ribbons for thee.
Poésie.
Boy de névrose, surtout ne pas juger. Agir et laisser faire. Aimer, ne pas contrôler. Sentir et se laisser surprendre. Surprendre, prendre par-dessus. Humilité nécessaire, force du croyant. Prêtre guerrier, guerrier croyant. Chevalier.
Sacré texte. Merci, merci beaucoup. Thomas Cerisola, accompagné donc par Charles-Éric Petit.
Ah, Franck, il le fait beaucoup mieux que moi.
Ouais. Alors, donc, Looking for Don Quichotte par la compagnie L'Individu, un texte et une mise en scène de Charles-Éric Petit, où Don Quichotte devient voilà, un chevalier rocker, garant de la mémoire de toute l'histoire, avec un H majuscule et surtout de l'esprit du rock'n'roll. C'est à découvrir à compter de ce mercredi 3 jusqu'au vendredi 5 de ce mois, hein, novembre, à 20h, au théâtre Jean Villard, quartier Mausson, 155 rue de Bologne, tramway ligne 1. Toutes les infos sur théâtrejeanvillard.montpellier.fr. Voilà pour les informations pratiques. Là, vous êtes actuellement en résidence.
C'est ça, c'est notre dernière ligne droite.
Vous avez fait pas mal de résidences.
On a eu pas mal de...
En plus, dans la région.
Oui, ouais, ouais, on a eu 10 semaines en tout de résidence entre PACA, on était en Ardèche aussi, on a fait un petit tour à Paris, et puis aussi à... Et puis ici, effectivement, ici, et puis au Théâtre de l'Albared à Ganges, qui nous coproduit également.
Oui, à l'Albared, là, vous y serez. Alors c'est plus tard. Hein,
c'est le 10 mai.
En mai, voilà.
Oui. Voilà, le 10 mai, on viendra jouer au Théâtre de l'Albared où on a fait une résidence en août dernier. On a pu tester justement les premiers gestes un peu scénographiques de Daniel et la lumière de Mylène Pastre que je rencontre aussi dans le travail en lumière qui nous fait des très belles lumières et dont je suis très 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 heureux aussi de ces nouvelles rencontres. Oui, qui est aussi de la région, Mylène.
Je sens qu'on va se régaler. Moi, j'ai depuis très, très hâte de le voir.
Il y a aussi de la musique live hein, sur scène. C'est Sancho.
Ah, mais oui, c'est Sancho qui joue de la batterie, c'est ça? Enfin, j'ai vu une photo.
C'est ça. Sancho joue de la batterie et qui chote, évidemment, la guitare.
Absolument.
Ah oui. Et alors, Thomas, j'ai lu aussi que vous étiez chanteur-compositeur du groupe Je suis un cerf.
Je suis un cerf, absolument. Tout à fait. Un groupe, c'est mon groupe de rock.
Yes.
Je suis sincère comme l'animal.
Il y a une petite compo de Je suis sincère
est-ce
aussi.
Est-ce que vous avez prévu là quelque chose, un petit after, quelque chose pour qu'on vous voit là à Montpellier, au Théâtre Jean Villard, peut-être le soir de la première, là, vous pourriez pas nous faire quelque chose?
C'est ça, un petit concert.
Ça serait cool.
Au bar improvisé.
Ah, c'est à suggérer à Franz Delplanque, le directeur.
Jam.
Du Théâtre Jean Villard. Ah oui. Et puis alors du coup, puisqu'on parle du Théâtre Jean Villard, précisons que c'est aussi une coprode.
C'est une coprode et c'est même notre principale coprode, le Théâtre Jean Villard. Et ce qui est super, par exemple, quand on se retrouve en création dans ce lieu-là, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe que j'ai un peu citée, il y a Romain Ruiz qui m'assiste aussi et qui va faire la régie son. La création son a été et celle de Joseph à merveille. Et que l'équipe d'accueil, en fait, qui nous accueille à ce moment-là, le temps de ces deux semaines de cette création devient aussi un peu un esprit de troupe. On crée ensemble et ça, c'est très agréable.
Eh bien, écoutez, un grand, grand merci.
Merci
hâte de voir donc ce Looking for Don Quichotte au Théâtre Jean Villard du 3 au 5 novembre à 20h. Et je voudrais remercier aussi Sarah Fourage, parce que c'est elle qui m'a présenté à vous.
Et oui, et il y en a des auteurs, du coup, à Montpellier.
Et à Montpellier, hein,
Antoine
on a plein
Vénin,
d'auteurs.
Tout ça, il faut les inviter,
donc,
tous ces auteurs.
Bisous à Sarah. Merci, merci. Merci à Yann, qui est à la technique aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs. Et à très bientôt sur Radio FM+. Bye, bye.